Dans quelques instants, la chronique hebdomadaire de MNP Limité. Pour reprendre vos finances en main, faites confiance à MNP, des professionnels d'ici pour trouver la solution adaptée à vos problèmes financiers. Disponible 7 jours sur 7. Consultez MNP Limité.
Salut Pierre Madard, comment vas-tu?
Ça va très bien.
J'ai souvent dit la phrase suivante concernant l'économie du Québec, maintenant on pourrait dire peut-être aussi l'économie canadienne face à la dette que l'on a.
La quoi?
La dette. Je disais, c'est pas compliqué, on va faire faillite puis on va repartir sur un autre nom.
Ah.
Tu sais, hein, t'as entendu cette phrase-là certainement?
Ben oui, ça fait partie des mythes et des histoires qui gravitent autour de la faillite comme telle.
On va regarder quelques-uns de ces mythes-là. Quel est le plus répandu?
Le plus répandu, c'est « Mon nom va-tu être dans le journal?
Ouais. » Parce qu'à une certaine époque, c'était ça.
Jadis, on va parler lors de la réforme. Et mon Dieu, ça a été la... Il y a deux réformes dans les lois de faillite. Au début, il y avait une publication, un beau petit carré, ça ressemblait à un avis de décès, où on disait que la personne allait faire faillite. Avec le temps... Il y a eu une séparation. T'as les dossiers de faillite qu'on va appeler d'administration ordinaire. Ceux-là, on a une obligation de publier. C'est principalement les corporations et les gens qui travaillent à leur propre nom. Les entrepreneurs de façon générale. C'est une notion de publication. Elle est obligatoire en vertu de la loi. Mais pour tous les autres, il n'y en a plus depuis 20 ans. Donc ça, c'est un mythe qui traîne depuis au moins 20 ans.
Un travailleur autonome, lui, est-ce que tu vas publier?
Ça va dépendre des actifs sous gestion. Ça dépend de la grosseur du dossier. Okay. Donc, il y a des dossiers qui, pour lesquels il y a des coûts. Si on prévoit la cour, si on prévoit avoir besoin d'un avocat, si les actifs à liquider vont entraîner des coûts spéciaux qui ne sont pas couverts ni prévus autrement, à ce moment-là, il va y avoir une faillite ordinaire et il va y avoir obligation de publication en vertu de la loi.
OK. Ça, c'est la première chose. Mon nom va-t-il être dans le journal? La réponse, c'est pour la grande majorité des individus, non.
Non.
OK. Maintenant, ça va-tu affecter mon dossier de crédit?
Oui.
Hein?
Mais, par contre... Ton dossier de crédit est probablement déjà affecté.
Ben, c'est ça que je me disais.
Donc, si tu as des retards sur les différents comptes, si tu as brisé tes ententes de paiement, si tu as pris entente avec des créanciers que tu n'as pas été capable de suivre, si tu as des retards sur tes cartes de crédit qui dépassent 60 jours, si tes paiements minimum ne sont pas faits, tes paiements de bel, d'hydro, de cellulaire sont pas là, ton dossier de crédit, il n'a déjà commencé. Il y a déjà du plomb dans l'aile. Il est pas mort, mais il est pas fort. Mm-hmm. Et la faillite va avoir pour effet l'avantage de la faillite au dossier de crédit, c'est que ça met une clôture. Donc, on ferme les opérations d'avant parce que la réponse, ça s'appelle faillite. Et il y a le après qui est rebâtir son crédit. Donc, d'une façon ou d'une autre...
Mais ça va rester dans mon dossier de crédit que j'ai déjà fait faillite.
En faillite, ça reste... c'est 6 ans plus la durée de ta faillite. En proposition, c'est 5 ans après la proposition et ça finit par s'effacer. C'est ce qu'on appelle refaire son crédit. Et habituellement, le crédit se refait sur une période d'un an et demi ou deux. Il s'agit de porter attention à poser les actes nécessaires et porter attention à son crédit et sa relation avec les créanciers, finalement.
OK. C'est confidentiel, évidemment.
La rencontre avec le syndic est confidentielle. Ça, c'est le premier morceau.
Vous êtes lié par le secret professionnel, vous autres, là.
On a le secret professionnel. Puis les employés de mon bureau n'en voient tellement que on ne sait plus un jour ou l'autre qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Dans les fêtes au bureau, secret professionnel, tu rentres au bureau, il n'y a personne qui va le savoir.
Parce qu'il peut y avoir des gens qui vont aller dans un bureau de syndic pour se faire conseiller sur la façon de redresser leur situation.
Effectivement, on fait aussi du redressement de situation financière. Et toute personne qui sort de mon bureau n'est pas nécessairement une personne qui fait faillite.
C'est ça.
Donc, j'ai des gens qui sont intéressés à acheter, qui viennent faire un tour au bureau. J'ai des gens qui viennent chercher des conseils. J'ai des gens qui viennent tout simplement me livrer des affaires. Puis donc, au bureau, il passe bien du monde.
J'ai même vu des gens qui allaient à ton bureau qui venaient te céduler une game de golf pour la semaine suivante.
C'est vrai. Ouais. C'est effectivement vrai.
Donc, il n'y a pas de problème pour la confidentialité, mais il y a toujours la question, lorsqu'on est dans la situation où on doit recourir au syndic, qu'est-ce que je vais perdre? Moi-tu tout perdre?
La réponse est oui puis non. C'est-à-dire que le Code civil prévoit qu'il y a des biens qui sont insaisissables. Insaisissables, donc le syndic ne peut pas les prendre. Donc, les effets personnels... Là, tes culottes, tes assiettes, tes couvertes puis tes oreillers, on saisit pas ça. Tes meubles,
ouais,
jusqu'à concurrence de 5000 piastres, et là, 5000, c'est une valeur marchande. C'est une valeur de marché aux puces.
Ah, marché aux puces?
Oui.
OK.
Écoute, des matelas, ça vaut pas cher. Un poêle, un frigidaire, habituellement, les gens qui viennent me voir n'ont pas le dernier modèle. Les TV, tout le monde en a. T'as pas de marché pour revendre ça, puis ça coûte une fortune. Donc, dans les faits, il n'y a pas de... Il y a des cas exceptionnels où il y a des choses. Ouais.
Mais, où le gars aurait peut-être, avant de faire faillite, décidé de changer tout son ameublement de cuisine, maison et tout ça, et aurait acheté du flambant neuf, comme certains en profitent pour monter, grimper leur carte de crédit au maximum pour aller faire des voyages. Ça, qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là?
Il y a le processus prévoit pour les gens qui sont, on va parler... Parlez pas de malhonnête, mais ce qu'on appelle faillite planifiée, là, du monde qui ont des idées croches, c'est pas la majorité.
Non.
Et le monde qui va le fourrer le système, c'est pas la majorité. Le système va les rattraper, ceux-là. C'est-à-dire qu'il y a des dettes qui se libèrent pas. On va en parler tantôt, mais qu'on arrive au niveau des dettes non libérables. Et le créancier peut toujours s'opposer, parce que si tu penses être capable de cacher quelque chose à un créancier, quand tu veux emprunter, normalement, tu déclares l'ensemble de tes biens. Quand tu fais faillite, si tu essayes d'en sauver, ben t'en as déjà déclaré à la banque ou à l'institution financière. C'est que la première affaire qu'il va avoir, si c'est important, j'ai un téléphone sur mon bureau, il dit « Hey Pierre, regarde donc ça, ce gars-là, il y avait telle chose, telle chose, telle chose, son bilan de faillite, je le trouve pas, peux-tu enquêter, s'il vous plaît? » Fait que quand les gens viennent chez nous, moi, on dit que les gens sont de bonne foi et ils se dégagent de leur obligation de façon correcte. La journée où on a la preuve... qu'ils ont, entre guillemets, fourré le système, à ce moment-là, la loi prévoit différentes choses.
Donc, les biens meubles, la plupart du temps, on va les garder. Si on parlait, par exemple, des RIR qu'on a pu accumuler...
Les RIR, c'est insaisissable, à l'exception de la contribution de la dernière année. Et il existe encore des RIR insaisissables. Donc, si vous avez une obligation de contribuer avec l'employeur ou l'employeur contribue, de façon générale, c'est insaisissable aussi.
OK. Donc, ça nous reste.
Toi. Ça vous reste, c'est protégé.
OK.
C'est protégé par la faillite. C'est pas protégé si tu fais pas faillite. C'est, des fois, c'est un avantage de faire faillite. OK. Pour ça.
Bon, évidemment, c'est toujours la peur de perdre la maison et de perdre son automobile. À une certaine époque, c'était pratiquement automatique, mais plus maintenant.
Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pas très, très compliqué. C'est-à-dire que la voiture est insaisissable depuis 2016. Si elle te sert pour aller travailler, aller te faire soigner ou te chercher un job. Et où il n'y a pas de transport en commun qui permet de pallier au manque de voitures. Donc, en région ici, là, la majeure partie des voitures sont insaisissables. La résidence, on comprend bien souvent que tu as des droits prioritaires sur la résidence par le créancier garanti.
Hypothécaire.
C'est ça, celui qui détient l'hypothèque. Et le syndic, lui, fait des ventes sans garantie. Donc moi, quand j'arrive pour vendre, c'est une vente qui est forcée et je dois vendre absolument. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des maisons où on va vendre, on va être obligé de consentir un rabais de 10, 15 ou 20 % sur la résidence. Bien souvent, elle a été négligée ou pas entretenue parce que quand les gens ont des difficultés financières, ils refont pas de rénovation sur la résidence. Et bien souvent, le solde dû aux créanciers hypothécaires est supérieur au solde pris de vente de la maison. Donc, dans ce cas-là, si la personne a respecté ses paiements hypothécaires, elle va garder sa maison. C'est la même chose pour les voitures. C'est-à-dire que quand on a un prêt auto, habituellement, la valeur du char réduit en fonction de... La valeur du char réduit en fonction...
De l'utilisation qu'on en a faite.
De l'utilisation qui a été faite.
Hop, petit téléphone, là. Bon, c'est réglé.
Les joies du direct.
Et il y a aussi souvent le fait que les automobiles, aujourd'hui, achetées ça cash, tu te fais regarder de travers par le vendeur. Il y a toujours un lien qui reste avec soit que tu l'as acheté ou loué. Là.
Ben, nos vendeurs automobiles, tu vas comprendre qu'ils vendent des chars, mais ils vendent aussi des contrats de financement.
Oui.
Quand tu payes cash, ben, le bonus du contrat de financement, ben, tu ne l'auras pas. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils préfèrent vendre le financement, puis c'est plus payant pour eux autres.
Mais il reste quand même qu'ils ont un lien sur l'automobile.
Sur le véhicule.
OK.
Et habituellement, si on respecte le contrat, puis que la valeur du char est supérieure au prix de vente, à ce moment-là, ben tu vas pouvoir garder ton char.
J'étais en situation financière difficile. Je me préparais à faire faillite. Je reçois un héritage. Qu'est-ce qui arrive avec ça?
Au Québec, les héritages, majoritairement, si le testament a été fait par un notaire, habituellement, on prévoit l'insaisissabilité des legs. Il y a des différentes conditions, mais de façon générale, si la personne a rencontré son notaire puis a planifié son testament mm-hmm. ou son décès, mm-hmm. Les sommes versées aux héritiers vont être insaisissables. C'est prévu en vertu de la loi.
Il y a des personnes qui ont fait faillite, on en a parlé, qui ont réussi à conserver leur résidence. Ça, c'est uniquement parce que ils ont soit pris des arrangements avec le créancier hypothécaire ou encore que le syndic considère que si on continue à faire les paiements, ça va être plus payant pour l'ensemble des créanciers que d'essayer de vendre la maison à perte.
C'est ça. Et quand on a une équité sur la résidence, bien souvent, on va se servir de la proposition de consommateur pour distribuer cette équité-là aux créanciers dans le temps.
Okay.
C'est que dans le fond, là, la résidence... assez souvent, les gens vont pouvoir la conserver.
OK. Les gens qui ont fait une faillite ou qui ont fait des propositions de faillite sont souvent regardés de travers par des bien-pensants comme étant des lâches, des personnes qui s'occupent pas de leurs affaires, qui sont négligents. Qui... C'est pas tout le temps le cas. Hein.
Non, c'est-à-dire qu'il y en a.
Ben oui.
Dans la vie, il y a tout dans la vie. Mmh. Ben, il y en a des gens qui ne s'occupent pas de leurs affaires puis qui sont négligents. Puis qui... Ben, mais ce n'est pas la majorité. Moi, bien souvent, on a les gens qui sont pognés avec des maladies ou tu sais, l'invalidité, tu reçois, si c'est invalide à Régie des Rentes, tu reçois 1100$ par mois puis tu vis avec ça. Avec 1100$, il n'y a pas grand monde qui peut vivre avec ça. Si tu travaillais et tu deviens invalide, ça ne marche pas. Les pertes d'emploi, puis bien souvent, c'est un vieil emploi. C'est un emploi que tu as conservé depuis bien longtemps. Mm-hmm. Par exemple, les gens qui sont dans l'industrie, qui ont ramassé leur augmentation à chaque année, puis qui l'entreprise ferme, lieu de gagner 28-29$ de l'heure, ils se retrouvent à 15, 16, 17, mais ils sont endettés pour le 28. Mm-hmm. Ça cause différents problèmes. La séparation ou le divorce.
Ah, ça coûte cher.
En plus que le divorce coûte cher, t'as des pensions alimentaires, t'as tout un paquet d'affaires qui suit là-dessus.
Tu doubles les meubles, tu doubles la résidence.
Toutes les dépenses sont doublées. T'as les gens qui... regarde, on est pogné dans le COVID, les gens qui ont des restaurants puis des bars à l'heure actuelle, il y en a certains qui passeront pas au travers malgré mm-hmm. toute l'aide, malgré toutes les autres choses. Une faillite commerciale va t'amener directement en faillite par les endossements que tu as donnés. Les retraités et les pensionnés qui n'ont pas accès à des rentes ou d'autres choses, la pension de vieillesse, c'est 500 quelques piastres. Avec le supplément de revenu garanti, c'est 1200. puis comme ils n'ont pas travaillé ben, ou qu'ils ont travaillé au noir, ou qu'ils ont travaillé sans faire de versement à l'âge des rentes, ben, je rencontre des gens, moi, qui doivent vivre avec de 13 à 1700 piastres par mois. Ça fait pas beaucoup, et si tu traînes un peu d'endettement avec ça, ben, t'as pas ben de choix.
Mm-hmm. Puis on va regarder toutes les dettes qu'on peut avoir accumulées. On a parlé, entre autres, de divorce. Là. Il y a des dettes qui sont, malheureusement, on peut pas effacer ça avec la faillite.
J'aimerais bien trop ça, parce que dans les faits, on va trouver les pensions alimentaires. Dis-toi, si les pensions alimentaires se libéraient, il y aurait une file d'ici. Je battrais à file du vaccin de la COVID.
Oui, probablement.
Les prêts étudiants.
Ah.
Tu sais, les étudiants, si le prêt a été consenti dans les 7 dernières années, il est habituellement non libérable.
OK.
Dans le temps, parce que j'étais un vieux syndic, si on avait ouvert dans les universités un bureau de faillite, tu reçois ton diplôme, tu scrapes 20, 30, 40, 50 000 piastres. Les étudiants, quand ils finissent l'école, habituellement, sont tous insolvables, compte tenu des prêts étudiants. Donc, à ce moment-là, le gouvernement a dit, on va te laisser 7-8 ans là, pour ramasser des biens. Puis après ça, tu vas avoir pas mal moins d'intérêt à faire faillite.
Si on a fraudé, on a toutes les amendes aussi, c'est pas...
Tout ce qui est de nature pénale, l'étiquette, les jugements de nature pénale, les indemnités au civil, les lésions corporelles intentionnelles, les agressions sexuelles, c'est non libérable. Les tickets, les excès de vitesse, les stops, ça se libère pas.
Ouais. Fait que finalement, c'est pas si pire que ça. On peut ne pas être montré du doigt sur la place publique. On peut garder sa maison, on peut garder son char, mais il y a certaines dettes qu'on va devoir honorer toute notre vie, malheureusement.
Dans les faits, la loi est faite pour te réhabiliter puis te remettre sur le chemin, puis que tu aies un intérêt à te replacer sur le centre du monde dans la société normale.
Alors, merci beaucoup, Pierre. On se reparle dans 2 semaines.
C'est bien beau. Bonjour. Salut.